société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone, comme d'habitude, pour une autre édition de Société, une édition qui s'annonçait printanière avec le temps des derniers jours, mais aujourd'hui, un peu plus frisquet. Couvrez-vous si vous sortez, bien que le soleil soit quand même très chaud. L'actualité politique est chaude aussi. Nous en discutons dans un instant avec les deux Fred de l'actualité. Et puis, un peu plus tard dans l'émission, le sociologue et auteur Joseph-Yvon Thériault nous parle du concept d'américanité. Peut-on célébrer, proposer, promouvoir le concept de l'américanité au Québec sans participer à l'américanisation du Québec. Ce concept est-il toxique ou valable? Joseph-Yvon Thériault réagissait cette semaine à une, ou plutôt la semaine dernière, à une lettre publiée dans Le Devoir par un autre sociologue, Gérard Bouchard, qui dit que le débat est raté sur l'américanité. On y revient donc en deuxième moitié d'émission, mais d'abord, allons tout de suite parler à Frédéric Lapointe. Tiens, pourquoi pas, en premier, il est fondateur de la Ligue d'Action Civique, ancien candidat dans Maurice Richard. Bonjour, Frédéric Lapointe.
Bonjour.
Et Frédéric Bérard, chroniqueur au journal Métro, avocat. Bonjour, Frédéric Bérard.
Bonjour, Nick Payne. Bonjour, Frédéric Lapointe.
Et auteur, bien sûr, d'une foule d'ouvrages à succès, dont le plus récent, La Terre est une poubelle en feu. Hein, n'est-ce pas? Plaidoyer.
Oui, quelques ouvrages à succès. Là, j'imagine qu'on tombe dans une subjectivité certaine.
Oui, oui. Ben, non, mais ça dépend toujours à quelle échelle et auprès de quel public, surtout. Ce qui compte, c'est de compter, c'est d'importer, hein? C'est la quantité. C'est pas toujours quantitatif.
Pas toujours qualitatif non plus, remarquez bien.
Mais au bout du compte, c'est le total, comme on dit.
Non, mais c'est clair.
Oui. Alors, parlons tout de suite. Commençons par la COVID, histoire de s'en débarrasser rapidement, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, on l'espère. La vaccination semble être bien en marche un peu partout. Le gouvernement canadien étire maintenant je pense que c'est jusqu'au mois d'avril, la période pendant laquelle nous recevrons ici environ 1 million de doses par semaine. Enfin, ici, j'entends parler au Canada. Frédéric Lapointe, est-ce que les choses vont à votre goût dans ce domaine-là? Et par ailleurs, les assouplissements dans le domaine des sports, notamment proposés hier par le gouvernement Legault, vous satisfont-ils? Irez-vous bientôt jouer au hockey?
Alors, ce sera, non, malheureusement, ce n'est plus de mon âge.
Arrêtez donc.
Un mal de dos instantané, mais pour...
oui, mais là, c'est peut-être idéal pour vous, parce qu'on parle de pratiques sans compétition. Hein? les règles sont assez serrées. Donc, vous allez vous présenter sur la glace, vous lancez la rondelle dans la baie vitrée, puis vous retournez boire du Gatorade.
Alors, je ne sais pas quand il y aura de la politique sans compétition, mais pour le sport sans compétition, peut-être que je devrais rechausser mes patins me reconditionner. Mais pour les plus jeunes et peut-être pour les déconditionnés de l'activité physique comme je suis, alors ce sera une excellente nouvelle. C'est un autre coup de cette crise. Hein? Il y a l'engorgement des hôpitaux qui fait que sur le plan des problèmes de santé, comme les cancers à dépister ou d'autres procédures qui sont reportées, il y a un coût en termes de santé à la pandémie. Mais l'absence d'activité physique ou la fin de l'entraînement physique pour plusieurs était un autre coût important de cette pandémie. Et c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on puisse reprendre ces activités, en effet.
Le premier ministre Legault s'est montré, Frédéric Lapointe, indisposé par la participation de certaines personnalités, chefs politiques, à la récente manifestation, justement en faveur d'un relâchement là, dans le domaine des sports. Avez-vous trouvé, comme plusieurs, M. Legault, un peu chatouilleux pour rien là-dessus? Il disait essentiellement, vous ne devriez pas aller là, en faisant ça, vous inscrivez finalement contre la science parce que nous, nos règles sont édictées en fonction de la science. Il jugeait sévèrement, donc notamment Paul Saint-Pierre Plamondon, il y en avait d'autres, je crois aussi, de membres de partis politiques bien en vue là, qui ont participé à cette manifestation.
Oui, mais en fait, ce qui est remarquable, c'est que le consensus des partis politiques est tenu jusqu'à ce jour. Alors, la réaction de M. Legault est correcte, je la comprends, et je comprends tout à fait la participation de Paul Saint-Pierre Plamondon à la manifestation. Par ailleurs, que pendant un an, la classe politique serrer les rangs en faveur d'une discipline des citoyens, alors qu'une portion significative des citoyens pouvait ne pas être en accord avec la discipline qui leur était demandée. Ben, en fait, c'est assez remarquable, cette discipline là entre les chefs de partis politiques. Donc, que ça craque maintenant, une fois qu'on est qu'on voit non seulement la lumière au bout du tunnel, mais qu'on voit la fin du tunnel, c'est pas bien.
Frédéric Bérard, est-ce que François Legault a pris goût à cette unanimité, cette relative faible critique de son action pendant un an, et puis là, il aurait maintenant une espèce de comportement d'enfant gâté, ou a-t-il raison de dire on peut manifester pour toutes sortes de choses, mais pas lorsque vient le temps, enfin comme chef politique, là, mais pas lorsque vient le temps de remettre de contester des mesures sanitaires édictées par la science.
Je ne sais pas si vous connaissez un seul politicien, politicienne qui ne jouirait pas au sens très fort du terme d'une immunité semblable, mais si oui, vous me le présenterez, parce que je doute que cette personne existe. Est-ce que c'est pas une année par excellence dans la tête d'un politicien de pouvoir décider sans se revoir être mis en question, ni à gauche ni à droite, parce que les partis d'opposition craignent justement d'être catégorisés comme étant ceux et celles qui nient la science. Hein. C'est un refuge qui est quand même très pratique. Là.
Ou qui brise l'espèce d'union nationale en temps de crise.
Exact. Et je pense que le lendemain de veille risque d'être très, très, très abrupt pour François Legault et compagnie. Hein. Quand la pandémie sera finalement derrière nous, là, ça va coïncider avec pratiquement la préparation de la prochaine campagne électorale, j'ai l'impression que le réveil va être très, très rude. Maintenant, moi, j'ai quand même un malaise, un peu que Legault, bah, probablement que Legault utilise ça à titre partisan, mais pour le reste, je comprends aussi ce que dit Frédéric, je suis pas en désaccord. Faut que ces jeunes-là bougent, parce que je dis les jeunes, mais particulièrement les jeunes avant les autres aussi, mais notamment, je pense aux étudiants universitaires là, qui ont casqué depuis un an, qui ont fermé leur gueule, mais qui l'ont eu très, très difficile, notamment sur le plan de la santé mentale. Mais est-ce que j'ai un malaise qui est relativement profond quand je vois une espèce de partisanerie s'opérer autour de règles sanitaires, comme c'est le cas présentement? Évidemment que le gouvernement Legault n'a pas été parfait. Arruda, vous savez ce que j'en pense. Mais de réclamer la réouverture de ci, de ça, tu sais, je veux dire, laissez faire les vieux, ouvrez mes gyms. Un instant, là, si le gym est fermé, c'est peut-être parce qu'il y a une raison, c'est peut-être parce qu'il y a un taux de contamination qui est important, c'est peut-être que, bon, bref.
Ben, ça ne sera pas la première fois, Frédéric Bérard, que des partis d'opposition vont manifester contre une chose qu'ils feraient à leur tour à 100% s'ils étaient au pouvoir.
Ça, on est d'accord, Nick, mais ce que j'essaie de dire, c'est que là, le cas est quand même particulier. On parle quand même de science. Là-dessus, Legault a raison. Pour terminer, par contre, peut-être la bonne nouvelle, c'est que là, vous l'avez dit tout à l'heure, il commence à faire beau, commence à faire de plus en plus chaud. Les sports extérieurs vont être de plus en plus possibles, par exemple le soccer bientôt, le baseball aussi. Et ces sports-là n'offrent pas le même risque de contamination que les sports intérieurs, comme le hockey sur glace, par exemple.
En effet, pendant que vous vous déplacez un peu plus, parce que vous êtes à l'ombre d'un grand chêne en ce moment et on vous perd un peu, je passe la parole à un instant à Frédéric Lapointe. Sortons du sujet du déconfinement et de l'assouplissement des règles. Parlons un peu de ces cérémonies cette semaine à la mémoire des victimes de la pandémie. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Frédéric Lapointe?
Ça apporte probablement beaucoup de réconfort aux gens qui ont vécu des périodes très difficiles au cours de la dernière année. Peut-être aussi que de constater qu'il s'agit d'un certain drame que de ne pas pouvoir accompagner, par exemple, des parents ou des grands-parents en fin de vie. Peut-être que ça nous fait réfléchir sur ce qu'on devrait faire en période normale, parce qu'il n'était pas, faut pas se raconter d'histoire, il n'était pas rare avant la pandémie que certains de nos aînés soient abandonnés à leur sort, soit dans leur domicile, soit dans des CHSLD.
C'est
ou
pas rare, c'est un euphémisme, hein, oui.
C'est un euphémisme. Mais là, maintenant que nous sommes empêchés de faire ce que souvent nous ne faisions pas par ailleurs, ça devient un drame. Alors j'espère que la leçon portera et que on aura cette attitude très empathique, même lorsque nous ne serons plus en pandémie.
En effet, Frédéric Bérard, avez-vous trouvé les cérémonies juste assez sobres, trop peu? Comment vous avez trouvé ça? Et puis, est-ce que, pour rebondir sur ce que disait Frédéric Lapointe, on retient des leçons déjà de cette année si particulière, ou est-ce que d'ici peu, nous aurons retrouvé nos vieilles habitudes parce que cette façon qu'on a de vouloir se débarrasser de la vieillesse d'une certaine façon, ou ne pas la voir ou ne pas s'en occuper, est peut-être profondément ancrée dans notre culture?
Pour la première question, je pense que le ton était... Je ne sais pas trop comment on aurait pu faire ça autrement. Hein. C'est une tristesse, évidemment, mais ça s'est fait... au compte-gouttes, si je peux dire ça comme ça, là, sans vouloir manquer d'empathie, contrairement, par exemple, je sais pas, moi, un cas comme le 11 septembre, ou bref, des trucs très, comme je dirais, très spectaculaires et immédiats. Pour la deuxième partie de votre question, moi, ça fait déjà un petit bout de temps que je m'intéresse, si je peux dire ça comme ça, médiatiquement parlant, à la manière dont on traite les enjeux dans les CHSLD. On en a parlé souvent à votre émission, d'ailleurs. Moi, c'est un des volets qui... peut-être le volet qui m'a affecté le plus dans cette pandémie-là. La manière dont on s'est délesté de l'enjeu, si je peux appeler ça comme ça, des personnes âgées dans les CHSLD ou dans les RPA. La manière dont François Legault disait « Oui, on a beaucoup de morts, c'est vrai, mais... si on enlève les gens d'un CHSLD, là, c'est vraiment pas si pire que ça. » Comme s'il y avait une espèce de catégorisation possible de la société québécoise. On a vu tous les problèmes engendrés en avril dernier, en mai dernier, où c'était un carnage dans les CHSLD. Or, je me rire d'abord, puis Marguerite Blais est encore en poste. Il n'y a eu aucune mesure annoncée dans ces mêmes CHSLD-là. En tout cas, du moins, il n'y a rien de public. Arruda s'en est pas occupé non plus. On se dit, qu'est-ce que tu veux? Puis là, de toute façon, Legault nous l'explique, c'est moins pire parce que les vaccins commencent à rentrer. Ces gens-là sont à peu près tous vaccinés. Je comprends, mais reste qu'il y a des problèmes encore majeurs. J'ai fait des petites recherches là-dessus parce que j'ai des amis qui travaillent là-bas. Ils disent, oui, mais c'est pas un milieu de santé, c'est un milieu de vie. Ce qui fait qu'on a des médecins qui passent aux 3, 4, 5 jours. Il y a des gens qui arrêtent de manger. Et quand le médecin arrive, souvent ils sont morts, déshydratés. C'est souvent ça la cause, une des causes principales, en fait, du décès dans les hôpitaux. Donc, imaginez-vous comment ce serait facile de modifier la donne d'un point de vue structurant en requalifiant les milieux en question, non pas de milieu de vie, mais de milieu de santé, en allouant des ressources, mais c'est pas grave, ces gens-là n'ont pas vraiment de voix. Il y en a plusieurs là-dedans qui ont des enjeux de santé mentale, évidemment, qui en ont perdu des bouts, comme on dit. Donc, ils n'ont pas de poids électoral important. Et je trouve que...
Oui, mais leurs proches en ont peut-être, hein, par contre.
Ouais, et puis... ils devraient en avoir. Et vous voyez, c'est ça qui me fait le plus mal. Parce que si on sort un peu du Québec, on se promène en Afrique, on se promène en Asie, allez pas leur parler de la manière dont les CHSLD ici fonctionnent, ils vous comprendront pas. Pourquoi? Parce que d'aller stationner des personnes âgées dans des trucs de même, on se fait rire un peu en pleine face et à très juste titre. Donc, c'est cette espèce de... Moi ça me touche, en fait, ça me fait de la peine. J'ai été élevé en partie par mes grands-parents qui sont décédés aujourd'hui, mais d'imaginer qu'on traite que la société québécoise, qui est une société riche, qui est ouverte, on est progressiste de manière générale, on n'est pas des sans-dessins, de traiter des personnes âgées de cette façon-là. Gandhi disait qu'on évalue une société dans la façon dont elle traite ses animaux. Moi, je dirais oui, puis peut-être à fortiori, ces personnes âgées. Et dans ce cas-ci, je vous dirais que j'ai un peu honte, bien franchement.
Frédéric Lapointe, on oublie souvent de dire dans ce débat-là qu'il y a quand même une majorité de personnes dans ces couches d'âge-là qui ne sont pas en résidence, en CHSLD, et qui sont tout à fait autonomes et fonctionnels et en relative bonne santé. Mais néanmoins, il est assez documenté que nous sommes au Québec particulièrement portés sur ce modèle-là en ce qui a trait à notre relation avec nos aînés. Est-ce qu'il y a un problème de culture au-delà là, de la gestion bonne ou mauvaise qu'ont fait ces ressources-là dont vient de parler Frédéric Bérard? Est-ce qu'il y a un changement culturel à opérer? On pense à des pays comme l'Italie qui ont été fortement touchés par la COVID, incidemment, parce que les personnes âgées restent dans la famille plus longtemps souvent.
Oui, on a différentes pratiques au Québec. Il reste que des gens sont beaucoup plus proches de leurs aînés. Il y a de plus en plus de maisons intergénérationnel. Je veux même pas savoir combien elle coûterait à Montréal.
Oui.
L'inflation immobilière actuelle, la dite maison intergénérationnelle. Mais bon, donc c'est un sport qui n'est pas pour toutes les bourses. Effectivement, je pense que nous avons vécu au Québec quelques changements culturels importants, quelques changements entre les générations, le rapport à la religion qui n'est pas le même, le rapport aux traditions qui n'est pas le même. On a tendance à se réinventer souvent. Et peut-être que en raison de cela, notre lien avec le passé, notre lien avec les années est quelque chose que nous valorisons moins que dans d'autres cultures.
Vous faites un parallèle entre une espèce de défaut de mémoire et de reconnaissance vis-à-vis de nos aînés, c'est ça?
Oui, j'observe que les sociétés qui ont leur génération sous le même toit ou dans le même environnement ou dans un entourage plus immédiat, ont un rapport avec leur histoire familiale, leur histoire nationale, leur histoire locale, différent d'une autre. Et c'est pas si surprenant que ça, finalement, que des questions comme le patrimoine bâti se trouvent à être fréquemment négligées ici. Je pense que c'est tout notre rapport au temps, notre rapport au passé, notre rapport à l'histoire, par rapport à l'instantané, par rapport à notre recherche de gratification immédiate. Je pense qu'on a quelque chose, oui, qui est un peu spécifique, pas unique, là, mais un peu spécifique. Il y a un accent plus fort là-dessus au Québec. Et d'éloigner l'image dérangeante ou le besoin d'être en état d'assistance ou d'accompagnement, c'est ce qu'on appelle parquer nos vieux de façon péjorative, ben c'est pourquoi, au fond, c'est pour se préserver soi-même, c'est pour pouvoir continuer à jouir de la vie comme on le fait précédemment. C'est la difficulté de se sacrifier aussi à cette tâche, je pense, qui nous caractérise.
Frédéric Bérard, notre discussion prend une tournure philosophico-sociologique, mais fort intéressante à mon point de vue. Est-ce que, comme le dit Frédéric Lapointe, vous pensez que de la même façon qu'on jette souvent les anciennes générations pour défauts idéologiques ou politiques, on fait de même, j'allais dire, physiquement ou humainement, on ne veut pas voir les anciennes générations? Et bien sûr, cette question interpelle un peu l'homme de gauche, hein, vous, puisque la fameuse tentation de la table rase et aujourd'hui de la cancellation fait beaucoup parler à gauche, là.
Oui, ben en fait, moi, c'est drôle, hein, je le vois pas comme ça. Puis je comprends ce que vous dites, puis je comprends l'inclinaison de votre question aussi, puis qui est, à mon avis, très intéressante. Puis je ne peux répondre que pour moi-même, mais je suis d'avis qu'il nous manque actuellement au Québec cette espèce, et ça va tomber dans la quétainerie un peu, mais cette espèce de pont intergénérationnel, en quelque sorte, en ce qui a trait au dialogue, en ce qui a trait à l'intellectualisme. On a fait des blagues avec le truc d'hockey boomer et tout ça, mais d'essayer de d'effacer, en quelque sorte, non seulement l'histoire, mais d'effacer, ça, pour moi, c'est beaucoup plus problématique en un sens, d'effacer certains porte-paroles, certains ambassadeurs, certains témoins d'une actualité qui commence à être vieillotte peut-être, mais qui est quand même pas si lointaine quand on y pense non plus. Ça n'existe plus, ça, ou à peu près, ce genre de discours, ce genre de débat-là. L'expérience, la richesse que peuvent amener, en fait, ces mêmes personnes âgées-là, je peux les appeler comme ça, d'un point de vue intellectuel, on a renié. Alors que, quand on y pense, la plupart, il y en a encore beaucoup d'entre eux qui sont encore en vie, qui ont vécu les grosses années, là, les années 40, les années 50, les années 60.
Mais pensons à un Guy Rocher, par exemple, qui n'est pas une vedette célébrée par les jeunes universitaires à Concordia, disons.
Non, mais là, c'est parce que vous ramenez ça avec votre obsession de Concordia.
Non, mais je fais le pont avec ma question, mais je veux dire, effectivement, là, est-ce qu'on a un problème de mémoire et de... Vous le dites vous-même, de pont, d'aplanissement des différences entre les... Peut-être pas, mais enfin, de pont intergénérationnel, oui?
Moi, je pense que oui. Puis par exemple, juste d'un point de vue médiatique, faisons le tour là, rapidement. Là. Où vous avez ça, vous, par exemple, quelqu'un de 75, 80, 85 ans qui débat, qui discute, peu importe, avec quelqu'un de, je sais pas moi, de ni plus ni moins notre âge?
Ça existe.
Bon, ben, non, mais on est des vieux, nous aussi, mais vous voulez dire quelqu'un comme Émilie Nicolas, disons.
Mais je veux pas tomber non plus dans l'âgisme, puis là, c'est telle tranche, puis telle autre tranche, puis je veux pas tomber là-dedans, mais on tu sais, la plaque de char, là, c'est je me souviens, hein, au Québec. C'est pas sûr qu'on se souvient tant que ça, et à tout point de vue.
Ben, votre ami Gilles Proulx, qui est aussi à notre antenne, dit toujours je me souviens de rien, hein, oui, c'est ça.
C'est bon avec Gilles, à chaque mardi soir à TVA, c'était l'idée qu'ils ont eue de faire une espèce de truc intergénérationnel, machin. Ça se passe plutôt bien, puis ça se passe même très bien, on s'amuse beaucoup et tout. Et évidemment, moi, je suis quand même pas si jeune que ça non plus.
Ben non, vous faites monter la moyenne d'âge dans le duo, oui, c'est sûr.
Non, mais de toute évidence, mais ce que j'allais dire aussi, c'est regardez juste, il y a un lien en ce que je vais vous dire, puis ce qu'on dit là, je pense, avec la chose suivante. Regardez la manière dont on se fiche éperdument du patrimoine au Québec. Le patrimoine immobilier, par exemple. Jean-François Nadeau, du Devoir, nous sort des malheureusement des bijoux pratiquement à chaque semaine sur telle ou telle affaire qui vient de se produire. Les municipalités saccagent le patrimoine de tout acabit sans répercussion quelconque pour des tours à condos ou des cochonneries du genre. Je trouve ça mais honteux et je trouve ça absolument, comment je dirais, antinomique avec notre prétention de se souvenir, puis notre héritage, puis notre culture, puis notre histoire. Je pense qu'on aime beaucoup flatter la bédaine avec ces concepts-là, mais quand vient le temps de l'appliquer, là, ça, je suis pas mal moins certain qu'on est capable de le faire. Ça inclut l'intellectualisme, ça inclut le patrimoine en général et ça inclut la culture là, au sens très large du terme.
Peut-être un défaut de mémoire donc et de difficulté de pour s'inscrire dans la durée, de conserver, de préserver, de célébrer ce qui a été fait avant nous finalement. Peut-être un problème. Il va falloir réfléchir à ça dans une prochaine émission. Passons à d'autres sujets d'actualité politique. Une autre enquête de la commissaire à l'éthique Ariane Mignolet sur le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. C'était ce que réclamait Québec solidaire, dit-on, et il semble que la commissaire s'apprête à déclencher cette enquête. C'est une forme, Frédéric Lapointe, de supplice de la goutte là, pour M. Fitzgibbon, qui déjà n'a pas l'air de trouver ça drôle généralement, une seule enquête, il est rendu à quatre. Et puis, le premier ministre Legault, qui lui l'appuie de façon indéfectible à chaque fois, c'est sans doute toujours plus difficile. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Est-ce qu'on va finir par avoir la peau de... ou le ministre va-t-il avoir lui-même sa propre peau à force de ne pas se conformer aux règles?
C'est clair que la CAQ joue avec le feu. Il faut se souvenir que la CAQ a démarré aussi sur la question de l'éthique, la question de l'intégrité. Ils ont un positionnement un peu mi-chat, mi-poisson sur la question constitutionnelle, mais c'est sur la question de l'intégrité qu'ils ont décollé. On se souvient que Jacques Duchesneau avait rejoint leur rang en 2012 et que ça avait donné de l'élan à leur électorat. Et ils pourraient s'infliger une blessure sérieuse s'ils traitent avec nonchalance ces questions-là. Pour le moment, les institutions font leur travail, c'est-à-dire que la commissaire reçoit les plaintes, reçoit les faits, fera un rapport. Mais si le ministre lui-même exprime tout du dédain pour le processus, qu'il continue à faire preuve de nonchalance et que le premier ministre continue à le protéger, en soi, ceci ne posera pas un problème. Mais lorsqu'il arrivera un scandale, et inévitablement dans un gouvernement, des scandales, ça survient, eh bien, parce que le gouvernement aura tranquillement usé sa corde, ben, il pourrait y avoir un bris de confiance avec la population.
Frédéric Bérard, c'est difficile, c'est déchirant même pour la CAQ, cette situation-là, parce que Pierre Fitzgibbon, à la CAQ, on en veut du monde comme ça, hein, pour montrer qu'on est aussi et beaucoup du côté du monde des affaires, des gens d'action qui sont pas seulement des pelleteux de nuages qui fument la pipe. Est-ce que des universitaires ou des professeurs, des avocats, tiens, jusqu'où est prêt à aller, d'après vous, François Legault, pour protéger son ministre?
Vous avez oublié le bon vieux joueur de piano de Maurice Lechevre Duplessis. J'ajouterais aussi la réflexion suivante. Fitzgibbon est chanceux essentiellement d'une chose, c'est de ne pas être un libéral. Parce que, d'après moi, le goudron et les plumes n'auraient pas tardé. Et ce gars-là est quand même relativement teflon quand on y pense dans l'opinion publique. Hein. Il n'a pas encore la réputation d'être un croche. Maintenant, par rapport à ce que vous venez de dire, ben moi, je suis entièrement d'accord avec avec Frédéric, là, ça commence à ressembler à un pattern, là, cette histoire-là. J'ai pas étudié, mais je me suis renseigné un peu sur l'affaire de la nomination à Investissement Québec, là, de l'ami Fitzgibbon, là, qui dans toute évidence, a passé par-dessus la tête de Monique Leroux et probablement même passé par-dessus la loi habilitante en question, de ce qu'on comprend. Je pense que Fitzgibbon a une espèce de réflexe du milieu des affaires, ça prend de l'action, ça prend de l'action, on fait ça, un chum, let's go, let's go. Donc, sans être nécessairement corrompu, disons que c'est pas quelqu'un qui s'achale beaucoup avec les règles en place, incluant les règles éthiques. Là, ça va bien, il y a une lune de miel, encore aujourd'hui, je pense, avec le gouvernement caquiste, de toute évidence, de manière générale, en tout cas. Mais comme disait Frédéric, le jour où on sait quoi va frapper la femme, ça peut la frapper solide. Et là, tu es rendu avec un ministre qui a un bulletin avec, comment on disait ça, au primaire. Là, nous, notre professeur faisait des trous dans notre carton. Là, mais lui, il commence à avoir pas mal de trous dans le carton. Puis ça fait pas si longtemps ça qu'il est là. Donc, si jamais il y a un prochain scandale, peut-être davantage d'envergure, alors que la CAQ commence à péricliter côté popularité, ben là, ça va être François Legault qui devra en payer le prix, parce que, somme toute, c'est quand même lui qui, un, a décidé de mettre Fitzgibbon là, puis deux, de le protéger à 100%, comme vous avez dit.
Bon, la ministre, enfin, maintenant, elle est ministre déléguée, si je ne m'abuse, Marie-Ève Proulx, toujours du gouvernement caquiste, fait l'objet d'une plainte pour harcèlement psychologique. Alors là, c'est le moment où spectaculairement politiquement incorrect, et vous pouvez raccrocher pendant que je vous pose la question si vous avez peur d'être associé à moi, mais je vais la poser quand même. J'espère que vous resterez quand même avec nous, chers amis Bérard et Lapointe. Est-ce qu'il y a... On voit se dessiner une forme de continuité avec d'autres allégations du genre mettant en cause des femmes en poste de pouvoir, en politique généralement. Est-ce qu'il y a une façon féminine? On connaît les travers des hommes, notamment dans les cas nombreux qui ne finissent plus de débouler d'agressions sexuelles et de comportements déplacés dans ce domaine. Le dernier et le plus spectaculaire en date, c'est celui du gouverneur de l'État de New York, M. Cuomo, qui fait des farces plates, des attouchements et qui propose des séances de strip poker, on voit le genre. Maintenant, est-ce qu'il y a chez les femmes, est-ce qu'il se dessine quelque chose d'autre, mais qui est caractéristique d'elles aussi? Frédéric Lapointe, tiens, je vous passe la patate chaude.
Non, je pense personnellement que certaines femmes en politique sont forcément des audacieuses, des survivantes, des battantes, des rigoureuses. Donc, ce ne sont pas forcément des enfants de cœur. Et ça rencontre.
Mais il n'y a pas juste la politique, là, hein, Nathalie Bondil. Ben, il y a une forme de politique dans ces autres postes-là, là, mais
bien entendu, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des fonctions pour lesquelles il y a un très fort effet de sélection. C'est pas n'importe qui se retrouve là. Donc, il se peut que ce soit des gens très exigeants envers leur entourage. Et dans le cas de la politique, ce qu'on voit, c'est que ce qui se produit dans le milieu de travail de plus en plus, les gens ont plus de difficultés à avoir un patron, les gens ont plus de difficultés à faire face à l'autorité, les gens ont plus de difficultés à faire face à l'exigence. Et là, en politique, on est habitué d'avoir des exigences qui sont au plafond. À demander 60 heures à des attachés politiques, c'est pas rare. Dire à quelqu'un qui vient de faire un communiqué de presse qu'il est non seulement mauvais, mais qu'il doit le recommencer, ça, c'est normal. Le fait qu'il n'y ait pas de sécurité d'emploi non plus dans le secteur politique, c'est un élément de plus. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on voit même des accusations de harcèlement dans le milieu politique, parce que c'est un milieu qui est habitué au comportement abusif. On carbure à la compétition dans ces milieux-là.
Ben alors, ça voudrait donc dire que...
Et donc, je ne sais pas si le développement est heureux ou pas. Je pense que les gens sont devenus, à mon avis, beaucoup trop sensibles aux exigences de rigueur et à l'exercice de l'autorité. Wow. Mais certainement, dans le milieu politique, les abus auxquels on s'était habitué, ben ils sont moins tolérés qu'avant.
Ben ça, Frédéric Bérard, c'est vrai que ces temps-ci, on remarque comment dire, une sensibilité plus forte chez plusieurs devant l'autorité brusque, des fois rude ou indélicate ou indéplacée. Il y avait d'ailleurs ce cas-là à Radio-Canada Québec, il n'y a pas longtemps, là, des gens qui se plaignent aussi d'être rudoyés, bardassés, abusés, harcelés, et le reste, et le reste. La question que je posais portait spécifiquement sur ces cas de femmes qui se multiplient et qui sont toujours accusées du même genre de choses, espèce d'abus de pouvoir ou de harcèlement psychologique. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'arbre qui... Je me trompe de perspective. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez.
Ben, deux choses... Puis, pour commencer avec votre question principale, là, je vais faire le gars de gauche, là, ce qui est en enfer fâché plusieurs, mais je pense que les femmes sont essentiellement victimes de doubles standards dans des postes comme ceux-là, de manière générale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cinglés à gauche, à droite, évidemment, il y en a, mais quand une femme politicienne devient émotive, ah ben oui, mais c'est parce que c'est une femme. Quand Justin Trudeau braille, ben ça... Si tu veux, c'est un homme sensible.
Alors, on tolère moins l'approche autoritaire quand elle vient des femmes.
Tu sais, quand Greta Thunberg saute un plomb à l'ONU, regardez, elle est bien trop émotive. Puis quand elle saute pas de plomb, regardez, comme disait Michel Humphrey, ben c'est une cyborg, elle n'a pas d'émotion.
On ferait.
Si on aurait dit ça à un petit cul de 13 ans, je pense pas. Et là, évidemment, je donne des exemples ici et là, Pauline Marois qui s'habille... s'habille de telle façon, et si c'est ça. Et bref, je pense qu'il y a réellement des doubles standards, ce qui n'empêche pas qu'il y a nécessairement des femmes qui ont abusé de leur position pour toutes sortes de raisons que j'ignore, c'est pas si important. Ceci dit, moi, je vais rejoindre le point de Frédéric que je trouve absolument exceptionnel. Quand il dit, et là, Frédéric, si je te paraphrase tard, tu me corriges, mais il dit essentiellement qu'on est en train de sombrer dans une période d'hypersensibilité, ça, à mon avis, c'est tout à fait vrai, et les cas sont nombreux, mais ça va plus loin que ça, Frédéric l'a effleuré aussi. C'est pas juste de la sensibilité de la façon dont on parle à X ou à Y, mais c'est aussi les exigences de fond, la rigueur d'un travail. Tu vas me recommencer ça parce que c'est pourri. Ah oui, mais là, oui, il est tough comme boss. Regarde, je te le dis poliment, là, c'est pourri. Peux-tu recommencer, s'il te plaît? Mais c'est quand même pourri. Mais la personne va complètement, souvent, sauter des plombs. Et là, il y a des processus de plainte, d'ombudsman, de ça.
Mais bien sûr, il y a des gens qui casquent. Là, on pense à Gilbert Sicotte, le comédien, qui, dans le cadre des cours à l'École nationale de théâtre, s'est fait finalement virer, hein, je crois. Ou en tout cas, il a choisi de s'en aller.
Mais comprenez-moi bien, moi, je comprends que on n'est plus en 1982, on n'est plus en 95 non plus, on n'est même plus en 2002. Donc, il y a une manière d'aborder les gens qui n'est plus la même. Ça, moi, je suis correct avec ça. Il faut faire attention de la façon dont on approche XY. Ça me va. Mais sur le plan de la rigueur ou de la compétence, ça ne devrait pas être négociable. Donc, quand tu as un patron qui dit, regarde, je suis désolé, mais on ne va pas l'envoyer comme ça, le communiqué de presse, parce que ça n'a juste pas d'allure, puis il y a 8 fautes dans ta première phrase. Ben, je veux dire, si un boss a plus le droit de dire ça, on va avoir un sacré problème. Puis là, je vais parler juste du milieu des avocats. Là, c'est un milieu qui intéresse particulièrement les gens, mais je pense qu'il est assez symptomatique de ce qui se passe ailleurs. Les bureaux d'avocats, actuellement, par exemple, à Montréal, ce qu'on appelle les grands bureaux, sont en train de trouver ça absolument difficile parce que les jeunes le disent, moi, je rentre, je vais faire peut-être un an ou deux, puis je m'en vais ailleurs. C'est pas vrai que je vais travailler comme ça. C'est pas vrai que je vais faire ci, c'est pas vrai que je vais faire ça. Puis je veux dire, c'est correct. En quelque part, ça va aussi. C'est un changement qui est créé par une nouvelle génération qui arrive avec des nouveaux paradigmes. Puis je veux dire, il faut saluer ça quelque part, il faut en prendre acte, mais c'est certain que c'est en train de modifier complètement la game, et ce qui devient plus problématique, à mon sens, sur le plan de la rigueur et sur le plan de la compétence, comme je le disais, comme Frédéric le disait aussi, parce que là, t'es rendu que si tu reprends quelqu'un, si tu corriges quelqu'un, pose la question de savoir si tu ne vas pas te ramasser devant un bureau d'harcèlement quelque part.
Bon, alors vous m'avez laissé tous les deux pris avec ma proposition incorrecte, mais je vais m'en sortir. T'sais, je me rachète un peu en terminant rapidement. Parce qu'il faut, on ne peut pas ne pas parler de cette histoire de harcèlement sexuel dans l'armée canadienne. Le ministre Sajjan qui dit maintenant, ben écoutez, c'est pas l'affaire des politiciens. On doit laisser les instances concernées s'occuper de ça. Justin Trudeau, qui après avoir nié que son bureau était au courant du dossier, finit par admettre en fait qu'il l'était, mais peut-être pas dans les détails. Mais un peu, mais pas tout à fait. Mais qu'est-ce que... On a de la difficulté au gouvernement Trudeau à gérer des situations de crise comme celle-là. C'est pas la première fois que ça se produit. Comment on fait pour être aussi mauvais en communication, Frédéric Lapointe?
Je pense pas qu'ils ont été mauvais. Je pense que c'est une situation qui est, par définition, difficile. Le ministre, si j'ai bien compris, a pris acte du fait que cette allégation existait et a signalé qu'il y a un processus pour le traiter, je parle à l'époque. Et par la suite, on découvre que la plainte n'a pas eu de suite. Mais ça, c'est pas la faute du ministre. Et tout le monde présume, face au débat, qu'il y aurait eu une grande opération de maquillage pour cacher les choses. Tout ce que j'apprends sur le dossier me convainc que non. C'est une banale histoire où il y a des gens qui ont des comportements ou des propos inappropriés, où il n'y a pas eu de plainte formelle, où s'il y en a une, il n'y a pas eu de suite qui ont été données. Et plusieurs années plus tard, on voudrait juger un ministre de la Défense et un premier ministre sur cette question-là. Moi, je pense qu'on est encore devant un cas où on exagère la situation. Ce n'est pas, il me semble, une affaire d'État qu'une rumeur n'est pas connue de suite dans un processus de plainte.
Bien, Frédéric Bérard, dans ce cas-là, si ce que dit Frédéric Lapointe est exact, est-ce que le gouvernement Trudeau, comment fait-il pour arriver à transformer ça en scandale?
Ben, en fait, moi, je suis, malheureusement, pour vous, Nick, je suis assez d'accord avec Frédéric. Encore aujourd'hui, ça doit faire la 14e fois, là. Je vois pas tant le scandale. Puis même,
c'est parfait pour moi. C'est vous qui aurez l'air de banaliser des histoires d'agression sexuelle.
Voilà, gantez-vous.
Ça vous apprendra.
Oui, tant pis, annulez-moi, ça presse. Une fois qu'on a dit ça, je veux juste faire remarquer la chose suivante. Ce qui est vraiment problématique dans toutes ces affaires d'accusations, d'harcèlement, peu importe que ce soit sexuel ou autre, c'est la rapidité à laquelle on juge la personne visée, comme quoi qu'elle est radiée ou elle devrait être annulée. On veut pas savoir sa version, ça ne nous intéresse pas. À l'Université d'Ottawa, lieutenant Duval, tu prends tes affaires, tu scrames, tu parles ta gueule, on te reparlera quand ça sera le temps. J'aimerais vous indiquer ma version. On veut pas la savoir, ta version, ça nous intéresse pas. Et donc, là, ce que vous êtes en train de faire, Nick Payne, avec ce dossier-là, c'est un peu ça. Parce que, comme disait Frédéric Lapointe, il a parfaitement raison, ça reste une très banale histoire. Je veux pas dire qu'il y a absolument rien là, mais là, est-ce qu'on va dégommer un ministre à chaque fois qu'il y a une rumeur qui décolle, non fondée, pas trop sûr s'il savait, s'il savait pas. Parce que ça devient des outils, des instruments, des armes de destruction massive dans les mains d'individus qui s'amusent à annuler un et l'autre. Et ça, moi, ça me fait drôlement peur. On parlait tout à l'heure de la question de rigueur compétente. Quelqu'un qui aime pas son boss aujourd'hui, là, c'est drôlement facile de s'en débarrasser pour une pécadille qui peut être montée en épingle parce que tout le monde réagit, tout le monde a la frousse. Tout le monde a peur d'être du côté de celui qui est accusé, même si celui-ci n'a absolument rien à se reprocher.
Ah, quelle belle critique de la pensée woke, Frédéric Lapointe. On va terminer là-dessus. Frédéric Bérard, je veux dire, avec l'aide de Frédéric Lapointe, bien sûr.
Une grosse assiste.
Il passe la rondelle, il compte un but. Merci beaucoup à vous deux. À la semaine prochaine.
Salut.
Chers auditeurs, dans un instant, nous discutons avec Joseph-Yvon Thériault d'Américanité. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, peut-on prôner une forme d'américanité québécoise sans ouvrir le panier de crabe de l'américanisation? Est-ce qu'on peut vivre une certaine américanité sans s'inscrire en rupture avec l'héritage culturel français? Quand on est québécois, du moins, on va poser ces questions-là et plusieurs autres à notre invité. Il est sociologue, Joseph-Yvon Thériault est désormais professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal, mais il est aussi auteur de nombreux ouvrages, dont un qui a été primé, qu'il est pertinent de nommer aujourd'hui, qui s'appelle « Critique de l'américanité, mémoire et démocratie au Québec ». Ce livre a été publié, et là, franchement, c'était parfait, chez Québec-Amérique, justement, en 2005. Bonjour, Joseph-Yvon Thériault.
Bonjour. Bonjour.
Alors, c'est suite à un texte de Gérard Bouchard qui, dans Le Devoir, le 27 février dernier, disait dans un texte dont le titre est L'américanité du Québec, un débat raté. Monsieur Bouchard revenait sur une critique qu'il vous a déjà faite autrefois, d'ailleurs, là, de confondre américanisation et américanité. Et il se défend à nouveau parce qu'il l'a déjà fait également d'être une sorte de fossoyeur du lien du Québec avec la France ou la culture française. Qu'est-ce qui vous a fait réagir dans ça et où sont vos désaccords avec M. Bouchard?
Oui, d'accord. Donc, oui, Gérard Bouchard revenait là récemment dans ce texte du Devoir sur un débat qu'on avait eu au moment de la publication de Critique de l'américanité, donc au début des années 2000. Et c'est cette question de est-ce possible de penser le Québec dans son américanité comme une société d'Amérique sans tomber dans le piège de l'américanisation? C'est la question de l'américanité, c'est toujours cette question de notre rapport avec l'Amérique. Moi, je soulevais déjà, et je reprends ça, que l'américanité peut avoir, d'une certaine façon, deux sens. Hein. S'il s'agit de dénoncer que nous sommes d'Amérique, que nous sommes sur le continent américain et que on a des comportements qui sont différents des Européens, par exemple, ben, je trouve que c'est une constatation vraie et assez banale, que ça ne mérite pas un grand débat. Ce que je voyais, c'est que les penseurs de l'américanité québécoise, hein, et je reviendrai peut-être sur le fait que l'américanité comme idée, hein, notre rapport à l'Amérique, ça fait longtemps qu'on en discute, hein, depuis l'acte de Québec, on a dit on n'est pas américain, la rébellion de 37-38, les historiens du Canada français ont toujours eu peur de l'Amérique, etc. Donc, notre rapport à l'Amérique a toujours été présent dans le passé québécois. Ce qui est advenu dans les années 1980, c'est l'idée qu'on a voulu se départir de l'excès qu'on disait de singularité qu'on donnait au Québec, hein, que le Québec était une société spécifique dans son histoire. On a voulu normaliser le passé puis le présent québécois. Et c'est là qu'est apparu le concept d'américanité. Hein. C'est-à-dire qu'on a dit le Québec n'est pas si singulier que ça, le Québec est normal, c'est une société d'Amérique. Et on a voulu à ce moment-là dire on peut distinguer l'américanité de l'américanisation. Et qu'est-ce que ce serait? C'est-à-dire que l'américanité, ce serait un modèle de société du nouveau monde. Le fait qu'on appartient à un continent qui était nouveau, qui a été peuplé par des Européens, avec une culture très différente de la culture européenne, etc., ce serait l'américanité qu'on pourrait distinguer de l'américanisation comme telle. Hein, l'américanisation qui voudrait dire simplement apprendre la culture et les habitudes de l'Amérique. Ma position dans ce débat-là, c'était de dire que quand on creuse un peu cette distinction que fait Gérard Bouchard ou que fait Yvon Lamonde ou que font d'autres penseurs de l'américanité québécoise, elle ne tient pas. Elle ne tient pas parce que finalement, qu'est-ce que c'est un parcours d'une société neuve américaine qui ne serait pas américaine, états-unienne? C'est dire que c'est une société qui ne fonctionnerait pas sur la mémoire longue. Ce serait dire que c'est une société qui serait en continuelle fusion par l'arrivage de nouveaux immigrants. Hein, une société de la diversité.
D'opportunités en fait. Aussi, hein, sans doute.
Oui, oui.
Mais alors donc, vous êtes en train de dire que selon eux, l'américanité est d'abord, nous sommes américains de la même façon que d'autres peuples d'Amérique du Nord, d'autres cultures, les Sud-Américains par exemple, ou les États-Unis, et ce qu'on les rejoindrait dans ces oui. traits particuliers aux sociétés neuves, jeunes.
Ouais, et moi, je dis, non, ça ne se tient pas. Quand on regarde de près, quand on creuse, on s'aperçoit que l'Amérique latine, c'est toujours défini par sa singularité, non pas par sa diversité. Le Mexique s'oriente vers son passé indien dans sa référence. Il y a peut-être le Brésil qui, d'une certaine façon, ressemble, mais la seule société qui s'est définie en rupture avec un passé et une histoire, c'est les États-Unis. Et donc, qu'on revient par la bande arrière à l'idée que notre parcours serait celui des États-Unis.
Mais selon Bouchard et d'autres, pardon, Joseph-Yvon Thériault, c'est le Québec, ce serait, avant les années 80, là, même dans les décennies 60 ou 70, aurait modifié, aurait transformé, transmuté son rapport à la culture française, jugé trop, à l'origine, trop hiérarchique, empreint d'une forme de mimétisme ou de suggestion pour se réinventer, et l'américanité aurait servi de rampe de lancement à ça, sans toutefois briser le caractère français ou la relation spécifique du Québec avec la France. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais je vois pas qu'est-ce que... C'est-à-dire que il me semble que ce qu'ils veulent essayer de faire à ce moment-là, c'est continuellement de dire le Québec, dans son américanité, est une société qui se définit par sa diversité. Et cette idée-là, on ne peut pas dissocier le débat de l'américanité du débat qu'on a aujourd'hui sur la laïcité ou sur le multiculturalisme, etc.
Ah oui, je vous comprends. Alors, vous dire que ce sont leurs mots, ils appellent beaucoup, ils convoquent la diversité.
Ils convoquent que les sociétés neuves, comme les sociétés d'Amérique, ne sont pas des sociétés, ce ne sont pas des sociétés de filiation. Les premiers travaux de Gérard Bouchard portaient sur ça, là, hein, c'est-à-dire que la famille canadienne-française n'était pas une famille de filiation, elle était une famille neuve, qui se reproduisait à l'identique et non pas à la tradition. Et ça a des impacts énormes sur la conception de ce qu'on fait du Québec. Hein. C'est-à-dire que le Québec serait une société qui ne fonctionne pas sur la mémoire, mais qui fonctionne sur la reproduction immédiate.
Mais depuis votre critique, quand on lit Bouchard tout récemment dans Le Devoir, ou même vers 2002 là, dans la revue Argument, il n'évoque pas cette question de diversité beaucoup. Il tient un propos qui ressemble presque à ce que vous êtes en train de me dire, sauf que, bien sûr, il maintient comme étant valide le concept d'américanité du Québec.
Non, mais c'est-à-dire qu'il ne maintient plus. C'est pour ça que je serais d'accord avec vous que depuis 2002, Gérard Bouchard a travaillé sur les mythes. Il a réinscrit le Québec dans une histoire de tradition, de filiation, etc. Il insiste dans le débat sur l'interculturalité à une dimension que le Québec doit avoir une culture majoritaire quelque part qui doit s'associer avec la diversité, etc. Donc, il a fait un chemin là-dessus. C'est pour ça que j'étais surpris qu'il revienne 15 ans après dans Le Devoir avec un article en disant que le débat n'avait pas eu lieu. Le débat a eu lieu d'une certaine façon et il a marqué son parcours. Mais il reste que chez lui, il est, disons-le comme ça, Gérard Bouchard et les penseurs de l'américanité comme les penseurs de la diversité sont préoccupés par comment on intègre la diversité et non pas comment on crée du commun. Et donc, les sociétés anciennes sont des sociétés qui, dans leur mémoire longue, ont une espèce de sens de ce que c'est la communauté. Et les sociétés neuves, c'est des sociétés de cow-boys. Hein, le mythe américain, c'est le mythe...
Le Far West.
Hein, c'est le Far West, c'est l'idée qu'une société se construit en s'enfonçant contre la nature, en intégrant la diversité, et de ça naît un mélange heureux d'une nouvelle société qui n'a plus de mémoire. Et donc c'est ça le mythe de l'Amérique, et moi je dis c'est ce qu'on retrouve dans l'américanité. Et cette américanité-là, quand on essaie de dire qu'elle n'est pas, elle est nord-américaine, les Argentins n'ont pas cette vision du monde, hein, même s'il y a une frontière, les Mexicains n'ont pas ça, les Colombiens n'ont pas ça, c'est pas vrai qu'on est plus près de l'Amérique qu'on est plus près de l'Europe. L'autre question, c'est la question européenne, effectivement, hein, c'est-à-dire que il me semble que si on veut comprendre quelque chose de nos débats actuellement, qu'il faut faire une distinction, parce qu'il y a un autre élément dans l'américanité qui n'est pas un modèle de société, mais qui est une culture. Hein. C'est-à-dire que la culture authentique, la culture... Les Américains, comme les hommes des sociétés neuves, seraient plus vrais parce qu'il y a moins de filiation, ils seraient même plus vulgaires. Hein. D'ailleurs, le populisme américain, c'est quelque chose qui est lié à cette conception de la culture américaine, hein, que la vraie politique, la vraie vie, elle est dans l'homme ordinaire, elle est dans l'homme authentique, elle n'est pas dans les institutions, elle n'est pas dans les partis politiques, elle n'est pas dans la République, etc. Et on a associé ça au Québec. Moi, j'ai Gérard Bouchard, là, mais dans le théâtre sur l'américanité, dans les romans sur l'américanité, le Québécois est américain parce qu'il est vulgaire, parce qu'il est authentique, parce qu'il croit pas aux élites, parce qu'il conteste les institutions, etc. Mais c'est pas tout à fait juste il y a des traits vrais du comportement québécois. On est nord-américain, on aime des hamburgers, on porte des espadrilles puis des jeans, puis je veux dire, mais
oui, globalement, on a ce caractère nord-américain, évidemment.
Oui, mais d'autre part, notre vie politique, moi je dis, j'emploie souvent les expressions de Fernand Dumont, là, notre culture seconde n'a jamais été complètement une adéquation à cette américanité-là.
Alors justement, j'y reviens un instant, Joseph-Yvon Thériault, l'américanité pour vous, donc si je vous suis bien, est valide s'il s'agit de l'enracinement dans un territoire, peut-être jusqu'à un certain point du point de vue culturel aussi.
Ordinaire. Oui. Je veux dire, on a juste besoin d'aller en Europe une fois dans notre vie pour comprendre qu'on est américain.
Voilà. Mais néanmoins, vous pensez qu'il est indissociable du caractère, j'allais dire, diversitariste de ceux qui ont été ses promoteurs, même s'ils ont un peu rétro-pédalé depuis, comme Gérard Bouchard.
Oui, je pense qu'il ne faut pas... Dans cette idée-là qu'il y aurait... Et l'américanité, ça se joue avec une espèce d'âge de l'authenticité où on privilégie aujourd'hui une espèce d'équation entre l'intime et le politique. Hein. Le politique devrait correspondre à ce qu'on est dans la vie réelle. Hein. Et moi, je pense que les sociétés fonctionnent pas comme ça. Les sociétés, elles réinterprètent le monde premier dans lequel on est. Elle réinterprète notre culture première pour en donner un sens qui est différent. Et je pense que le Québec, à ce moment-là, n'est pas américain dans sa culture seconde. Mm-hmm. Il a un passé catholique, donc un passé d'une part qui est beaucoup plus centralisé, qui est moins individualisme que la tradition anglo-américaine. On retrouve ça aujourd'hui dans le modèle de l'État-providence qui s'est donné depuis les années 60. On retrouve ça dans son rapport à la laïcité, par exemple, qui est plus républicain que libéral-démocratique, etc. Donc tout ça, si on veut comprendre ça, il faut comprendre que ce n'est pas notre américanité première, notre culture première qui nous fait ça. C'est le sens qu'on a donné à cette culture-là.
Bien sûr.
Dans une deuxième dimension que Fernand Dumont appelait culture seconde. Et moi, je dis, les penseurs de l'américanité, encore aujourd'hui, conçoivent qu'il devrait y avoir un automatisme entre notre manière d'être dans la vie quotidienne et notre manière d'être politique. Et même historiquement, je conteste un peu l'idée que notre culture élitiste était tournée vers la France. Nos intellectuels politiques du 19e siècle, hein, qu'on pense à Papineau, qu'on pense à...
Oui, ils étaient souvent républicains à l'américaine.
Ou encore ouais. Étienne Parent était libéral conservateur à la Burke.
Oui.
Ces gens-là, avant la fin du 19e siècle, avaient étudié, non pas dans des collèges classiques orientés vers la France, mais avaient étudié à la méthode anglo-saxonne, ils lisaient les journaux anglo. Notre tradition même de... Les traditions politiques de gestion de nos écoles, de gestion de la différence historiquement, ont été beaucoup plus américaines, je veux dire anglo-américaines, je dirais, que françaises. L'idée que le petit clergé qui venait de la paysannerie canadienne-française soit, je ne sais pas où on a pris ça, je ne comprends pas que nos clergés étaient français. Il y a dans un roman de Gérard Bouchard l'idée qu'un curé, à la fin du 19e siècle, apporte sa bouteille de vin puis ses truffes dans un champ. Et là, tu te dis, il me semble que non, là, les curés, c'était des gros paysans qui avaient passé 4 ans dans un collège classique puis qui étaient très, très près du terroir.
Canadien-français, oui, québécois.
Oui, qui était canadien-français. Et donc, même cette idée-là, et donc...
Mais accédez-vous quand même à la proposition de Bouchard voulant que ce que l'américanité que nous avons en commun avec, par exemple, certains peuples de l'Amérique du Sud, c'est celle voulant que nous avons essayé tout de même de nous affranchir de la mère patrie pour développer...
Ce qu'on dit dans ça, c'est que le Québec serait la seule société anormale. Ce qui n'est pas tout à fait une
Par rapport aux autres, aux Sud-Américains,
ben oui,
par
exemple? Parce que les autres se sont tous affranchis de la mère patrie. Le Québec ne s'est pas affranchi, ne s'est pas décolonisé, n'est pas devenu indépendant, n'est pas devenu autonome.
Ah, de cette façon-là.
Par rapport à la France, mais mm-hmm. je veux dire, dans ça, hein, dans un texte sur l'Amérique.
Mais culturellement, disons, là, vous comprenez ouais, ce processus-là?
Oui, oui. Non, ben ça, c'est, oui.
Le joual et le reste.
Oui, oui, je suis. Mm-hmm. Oui, tout à fait, mais. Ce n'est pas, il n'est pas de, je dirais, il n'est pas devenu américain, il n'a pas, c'est pas de l'américanité en s'affranchissant de la mère patrie en littérature, puis les références sont devenues québécoises.
Ah, c'est de la québécitude, au fond.
Ben, c'est ça, c'est la québécitude qui est développée. Qu'est-ce qui s'est développé dans les années 60? Je ne sais pas.
Il nous reste deux minutes, Joseph-Yvon Thériault. C'est pour ça que je vous presse un peu. Est-ce que je veux vous poser une dernière question? Je ne sais pas si vous allez avoir le temps d'y répondre. Vous avez parlé en début d'entretien des conséquences de cette pensée, de cette américanité-là, de la promotion de cette forme d'américanité-là. À quoi pensiez-vous? Parce que j'imagine que si les théories de Bouchard dans ce domaine-là vous motivent, vous inspirent autant, une critique aussi fervente, c'est que vous y voyez des conséquences nocives.
Des conséquences sur la banalisation, comme je disais, du parcours historique du Québec, mais ce qui veut dire aussi
une perte de mémoire, donc?
Un certain désintérêt pour la spécificité québécoise, pour le modèle québécois, etc., qui fait en sorte que derrière l'américanité, on déploie quelque chose qui nous abandonne en disant, mais les sociétés, au fait, elles sont mues par des courants qui sont pas liés à notre culture à nous, mais qui sont liés à la culture de l'Amérique. Et je pense que on est dans une époque de forte tendance à l'américanisation. On le voit dans le domaine de la culture populaire actuellement, de la chanson puis de la musique à la radio, etc.
La révolution numérique, hein, finalement.
Si on veut réfléchir sur notre identité, bon, il faut qu'on revienne à dire, bon, sans tomber dans la ceinture fléchée, qu'on doit reprendre l'idée que les sociétés sont capables de donner un sens à leur histoire, même si elles participent d'un même courant.
Très belle conclusion, Joseph-Yvon Thériault. Il faudra y revenir cependant. Et en attendant, on va aller vous lire. Merci d'avoir participé à l'émission ce samedi et profitez du beau temps.
Merci, c'est moi.
À une prochaine.
D'accord, au revoir.
Chers auditeurs, c'était bien sûr Joseph-Yvon Thériault, sociologue, auteur. Ici, Nick Payne qui vous dit à la semaine prochaine et merci d'être toujours fidèles et nombreux à l'écoute.